Donc bienvenue à ceux qui ont bravé le froid pour cette étude biblique, ce groupe biblique, cette lecture donc d'une page qui prépare l'évangile de Noël, ou même qui nous le fait franchir, parce qu'il y a le Magnificat, donc c'est la louange de Marie qui est avant la naissance de Jésus, et puis on a ajouté dans ces louanges, on a ajouté la louange des bergers et des anges, ce qu'on appelle le Gloria, et puis la louange de Siméon, qui s'appelle en français dans le texte, le Nunc Dimittis. Alors il manque la louange de Zacharie au milieu pour avoir ce petit parcours de louange qui est proposé dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en fait. Mais bon, c'est surtout le Magnificat sur lequel nous allons nous pencher. C'est vrai que c'est un texte absolument, absolument immense, qui est un résumé, à mon avis, dans lequel Luc, celui qui a écrit donc cet évangile, ce texte, met déjà une bonne partie, finalement, de la table des matières de son évangile. Donc c'est un très, 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 très beau texte. Donc,
Oui, comme le disait Marc, bonsoir à tous. Effectivement, ces hymnes de l'évangile de Luc, on les compte au nombre de 5, Magnificat, le Gloria, le Benedictus, le Nunc Dimittis, et j'ai oublié, Magnificat, Gloria, Nunc Dimittis, Benedictus avant d'ailleurs. Il y aurait la salutation, si l'on veut, d'Elisabeth à Marie, qui est le début du Je vous salue Marie, mais
on l'a raccroché.
Voilà, il y en a une qui m'échappe, puisqu'on dit une hymne dans la tradition liturgique. Alors c'est vrai, dans l'Église catholique, le Benedictus, c'est-à-dire l'hymne de louange de Zacharie au moment de la naissance de Jean, et le Magnificat, l'hymne de Marie, sont des hymnes qui sont normalement dits tous les jours dans la liturgie des heures. Donc c'est pour dire un peu le statut que l'Église catholique leur a accordé. C'est un statut inouï, d'une certaine manière. Aucun psaume n'est dit tous les jours. Donc ce sont des textes qui sont dans le bréviaire. Alors, le Benedictus le matin pour les laudes et le Magnificat pour les vêpres le soir. Je me suis souvent demandé pourquoi. Je pense que parce que le Benedictus est du côté de la naissance. Il rend grâce pour une naissance. Il s'émerveille de quelque chose qui commence. Et le Magnificat fait mémoire des hauts faits de Dieu, des mirabilia dei, comme on dit, des merveilles de Dieu. C'est une louange indirecte, puisque Marie ne s'adresse pas directement à Dieu, c'est une louange indirecte, mais qui fait mémoire des hauts faits de Dieu, de la geste de Dieu, de l'épopée salvifique en faveur d'Israël et de sa race à jamais. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que la tradition occidentale et orientale, d'ailleurs, on fait entendre ces deux grands textes, qui sont des textes très lyriques. On va peut-être évoquer certains aspects exégétiques, à savoir que une certaine tradition de l'exégèse dit que Luc, l'évangéliste Luc, ou en tout cas les rédacteurs de l'évangile de Luc, ont procédé en deux temps et ont peut-être inséré dans ces évangiles de l'enfance ces hymnes liturgiques, qui sont des compositions lyriques, des mosaïques de réminiscence de la première alliance, une sorte de rhapsodie. Bien sûr, on n'a aucun reportage sur la visite de Marie à sa cousine, donc il est peu probable que Marie ait improvisé ce texte sublime, mais en revanche, en voulant faire de Marie le premier disciple, ce qu'elle est, puisqu'elle est la première qui a cru, et en mettant dans sa bouche une hymne aussi belle, effectivement, ou un cantique aussi beau, il est évident que Luc fait plus que orner son évangile, fait plus que décorer son récit. Il y a une coïncidence évidente, il y a une corrélation évidente entre l'état d'esprit de Marie, d'exultation, elle qui apprend qu'elle va être mère, Et puis ce monument de la poésie qui manie les paradoxes sur Dieu, etc. Voilà. Donc, effectivement, il faut voir dans ces grands textes la volonté pour Luc, non pas d'accéder à une vérité de type historiciste, qui menace toujours d'être un peu fétichiste, c'est-à-dire d'idolâtrer les événements. Et vous le savez très bien, aucun témoignage ne peut rendre compte d'un événement. Donc Luc fait œuvre de théologien, et donc sa vérité n'est pas une vérité de type historiciste, mais c'est une vérité beaucoup plus haute. C'est une vérité théologique. Il cherche effectivement à montrer la valeur pour le salut des personnes qui entendent le texte, qui le lisent, qui l'entendent proférer, la valeur pour eux dans leur propre vie, l'ébranlement que ça suscite dans leur propre vie, le choc que ça suscite. N'oublions jamais que les disciples ont été affrontés à une question, les premiers disciples au 1er siècle ont été affrontés à une question absolument cruciale, c'est le cas de le dire, puisqu'ils ont dû relater une expérience inouïe, une expérience existentielle dont ils n'avaient pas prévu l'impact sur leur propre vie à eux, sur les bifurcations que ça allait donner dans leur propre destin, et ils ont dû l'exprimer avec le langage de l'époque, c'est-à-dire de manière narrative, et on peut dire que les quatre évangiles sont des formes de théologie. Les évangélistes sont des théologiens, c'est un discours sur Dieu, mais un discours narratif parce qu'ils ne peuvent pas le dire autrement. Alors ensuite, on n'est pas prisonnier de la lettre, évidemment, de ces textes, et je dirais qu'il faut entendre le Magnificat comme la mise en discours et en récit, parce qu'il y a les deux éléments, le linguiste benveniste distingue discours et récit, mais il y a les deux dans ce cantique, qui sont là pour essayer de cerner ce qu'a pu être l'expérience profonde, indicible, ineffable, de cette jeune femme qui avait peut-être 15-16 ans, enfin, et qui est absolument consciente d'accomplir le mystère de son peuple, mais évidemment d'une conscience qui n'est pas une conscience spéculative, ce n'est pas une conscience réflexive, c'est beaucoup plus profond. Elle est vraiment branchée sur l'histoire de son peuple, sur les attentes d'Israël, sur les promesses faites au peuple d'Israël, et quelque chose se vit en elle. Et son oui, le oui de l'Annonciation, n'oublions jamais que ce oui que tous les théologiens ont pu gloser, c'est un oui qui n'est pas un oui à quelque chose de grandiose ou à quelque chose de spectaculaire ou de surhumain, c'est un oui à sa vie très, très, très simple. C'est un oui à sa vie cachée et à la vie cachée du Christ. On oublie souvent de voir à quel point ce oui est un oui adulte qui dit « voilà, ma vie ne sera que ça ». Mais c'est là que se joue la révélation.
Oui, donc j'ai bien aimé ce que tu dis sur le statut de ces textes qui sont en fait des prédications et pas des reportages. Et ça, je crois que c'est important. Mais d'autant plus, j'ai l'impression que le texte, dans la lettre même du texte, dit cela. C'est-à-dire que Marie, elle reprend, on n'a peut-être pas le temps aujourd'hui d'aller comparer avec le cantique d'Anne, la mère de Samuel, si vous voulez. Dans l'Ancien Testament, c'est très très proche, en fait, littéralement.
C'est le cantique de Samuel.
C'est le cantique de Samuel, le cantique d'Anne, voilà, qui chante le fait que bon, elle était stérile, elle va prier au temple et finalement, elle est enceinte et elle chante un cantique, elle chante une louange en fait à Dieu. Et donc Marie reprend ça. Elle reprend aussi les promesses faites à Abraham. Si vous voulez, il y a une relecture des textes de l'Ancien Testament dans une appropriation parce que. Littéralement, elle n'est pas stérile. La dernière chose qu'elle veut sans doute, c'est d'être enceinte, parce que 15 ans non mariée, c'est quand même, ou alors 13 ans, sans doute. Si vous voulez, à l'époque, on se fiançait fort jeune, comme au Yémen maintenant, malheureusement. Et donc en fait, il y a une relecture, mais pas littérale, de l'histoire de Anne et Samuel. Elle en fait une relecture existentielle, spirituelle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas sa détresse ou le fait qu'elle soit vraiment tout bas, qu'elle soit cette libération qu'elle ressent de Dieu, c'est ce que Dieu accomplit, les merveilles que Dieu accomplit pour elle, c'est pas d'avoir un enfant, si vous voulez. C'est le fait que Dieu ait porté son regard sur elle, et donc il y a une relecture de l'histoire de d'Anne, il y a une relecture de l'histoire d'Abraham, et une appropriation comme parlant de sa propre misère existentielle, spirituelle, et du salut que Dieu apporte. Donc je crois que il y a une leçon d'exégèse aussi, si vous voulez. Il n'y a pas simplement une leçon de théologie ou une leçon de foi dans ce texte, il y a aussi une leçon d'exégèse. Voilà comment Marie prend les textes de l'Ancien Testament, c'est un tissage de textes, de promesses, de louanges de l'Ancien Testament. Elle se les approprie, et quelque part dans ce geste de Marie, on peut s'intéresser à sa théologie, à sa foi, à son expérience, on peut aussi s'intéresser à son geste d'appropriation de l'Écriture et du statut de l'Écriture pour elle. Ce n'est pas des histoires anciennes, c'est des histoires qui parlent de l'aujourd'hui, du salut de Dieu, qui la concerne aussi. Et donc elle entre dans ces textes, elle les fait siens pour discerner dans sa vie ce qui est de l'ordre, le signe de l'action de Dieu, du salut de Dieu. Et elle trouve aussi dans la Bible les mots pour commencer sa louange. Et ça, je crois que c'est le grand service, peut-être, que nous pouvons avoir de l'Écriture, des Écritures, des textes bibliques. C'est pour une appropriation libre, féconde, actualisante. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se reconnaît dans le texte, on reconnaît l'action de Dieu dans notre vie à l'occasion de ces textes. Et ça nous invite à ne pas les laisser s'écouler comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais vraiment à les ruminer, à les digérer, à les faire nôtres. Et ça, pour ça, les Écritures sont vraiment un outil puissant, à mon avis, et utile. Alors que si on fait une lecture historiciste, comme tu dis, de l'histoire de l'Annonciation, d'une conception complètement spectaculaire, à ce moment-là, on le transforme en un événement du passé qui ne nous concerne plus, dans un sens. Et donc, il faut en faire une lecture, quel que soit ce qui est réellement arrivé à Marie, d'une manière historique. Tu as raison de rappeler, bon, elle avait un certain âge, c'est un vrai petit bout de bonne femme, si vous voulez. C'est pas un personnage mythologique. C'est une vraie personne, mais ils en rendent compte comme ça. Mais la manière d'en rendre compte, c'est une prédication. C'est une prédication pour s'ouvrir au salut de Dieu dans notre existence aujourd'hui.
Peut-être lire le texte.
Ouais. Est-ce que quelqu'un veut nous lire déjà le Magnificat ?
Le chanter ?
Oui, chanter, ce serait. Ah, merci beaucoup.
Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes, bénie aussi le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de bien. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. »
Alors moi, ce que je remarque déjà, si vous voulez, c'est que dans ce texte, les femmes sont prophètes bien plus que les hommes. On sait que Zacharie, il avait du mal à saisir la promesse qui lui était faite par l'ange. Par contre, Marie, bon, discute un peu, mais assez rapidement, comme tu le disais, Jérôme, et elle finit par dire « oui, qu'il me soit fait selon ta parole ». Mais là, Élisabeth aussi fut remplie du Saint-Esprit, c'est-à-dire que littéralement, elle devient prophète. Et les hommes sont à la remorque dans un certain sens, parce qu'eux n'ont rien saisi. Enfin, dans l'évangile selon Matthieu, c'est Joseph qui tient le premier rôle, plus que Marie. Mais là, dans cet évangile selon Luc, c'est Marie, c'est Élisabeth qui sont prophètes. Et on le sait, à la fin, à la résurrection, à la fin de ces évangiles, eh bien, c'est encore des femmes qui seront vraiment les premières qui seront à la pointe pour saisir cette nouveauté du salut de Dieu. Et donc ça, je crois que c'est quand même assez subversif dans ce milieu, peut-être, de mettre les femmes ainsi vraiment à la première place. Et tu avais raison de dire que Marie, le type même du croyant, à mon avis, les évangiles, particulièrement Luc, moins l'évangile selon Marc, sans doute, mais l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, d'une manière vraiment très importante, place Marie comme le type même du croyant. Et là, dans cette première partie de l'évangile selon Luc, tout particulièrement. Donc nous pouvons la suivre. Alors il y a marqué qu'elle est bénie plus que les autres femmes. Bon, là, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Il y a marqué qu'elle est bénie, en fait, parmi des femmes, donc je ne sais pas si c'est plus que les autres femmes, parce que dans un sens, ça pourrait dire que nous n'avons pas la même promesse, là, pour nous, d'être bénis comme Marie l'est, je ne sais pas. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, il n'y a ni plus ni toutes dans le grec, donc c'est étonnant. Que le traducteur ait projeté ça dans ce texte, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, voilà, je crois qu'on peut se sentir, comme Marie le fait pour les Écritures de l'Ancien Testament, on peut se sentir cette Marie qui, comme Marie, reçoit la grâce de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui nous met vraiment à part, qui est une élection personnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un numéro parmi des milliards, mais qu'on est... reconnu, appelé parmi tous les autres pour une vocation personnelle. Alors évidemment, la vocation de Marie est tout à fait unique, d'être la mère de Jésus, excusez-moi du peu, mais cela dit, il n'y a pas de grande vocation et de petite vocation. Il y a des vocations uniques, mais toutes les vocations sont uniques, j'allais dire. Donc ça, c'est... Alors, il y a aussi les fruits de ton sein, si vous voulez, le fruit de tes entrailles, finalement. Hein. Ça aussi, peut-être, il faut décrypter ça, parce que, si vous voulez, il y a un peu un jeu de mots en hébreu qui fait que le mot entraille, ou alors ici, le sein, ça, c'est pas la poitrine, c'est plutôt l'utérus, si vous voulez. Et donc, ça, en hébreu, c'est le même mot que la grâce, que l'amour. C'est l'amour maternel. C'est Chacham, c'est à la fois la grâce, la miséricorde, des fois traduit par miséricorde, par grâce, ou par les entrailles, voilà, le sein. Et donc, bon, nous, particulièrement les hommes, j'allais dire, on ne peut pas, on n'est pas équipé pour produire un enfant. Donc, pour s'approprier le texte, il faut en faire à ce moment-là une lecture. Une lecture spirituelle, existentielle, bien sûr. Et donc nous, le fruit de notre sein, de nos entrailles, c'est le fruit de notre amour, finalement. Un amour de celui qui nous aime, Dieu, qui est l'origine de cette grâce. Et puis l'amour du oui de Marie, c'est ça le premier fruit de son entraille. C'est ce oui, c'est-à-dire c'est le fruit de l'amour qu'elle a pour Dieu, d'une confiance, et puis je crois que c'est ça, si vous voulez, d'une manière dont on peut s'approprier ce texte. Et donc nous sommes bénis, mais aussi le, ce qui va coller les fruits qui vont pousser à partir de notre capacité à aimer, à capacité à vivre de cette grâce que nous recevons. Ça, on le retrouve, à mon avis, dans ce qui est dit en bas, la promesse faite à Abraham. Dieu lui promet, avant même qu'il ait rien fait, qu'il est béni et qu'il sera bénédiction pour un très grand nombre de peuples. Donc, vous voyez, les deux sont attachés. Elle est bénie et est bénie aussi dans ce qu'elle va apporter au monde. Et c'est une double promesse, à mon avis, qui nous est donnée aussi à chacun de nous, bien sûr. Et c'est en ça que Marie est le type même du croyant.
Ce qui est fascinant dans la scène, qui évidemment a inspiré beaucoup de peintres, et beaucoup de vitraux, etc., sont des représentations de cette visitation. L'imaginaire, souvent, s'est saisi de la différence de génération qu'on suppose, bien sûr, entre les deux femmes. Rendre visite à une cousine, à une amie, c'était une activité importante, et c'est encore vrai aujourd'hui, évidemment, dans la vie sociale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est au-delà du dialogue, ou au-delà de la conversation, ou de l'échange. Il y a quelque chose qui est suggéré par Luc, hein. Ce sont deux femmes qui se considèrent, et qui s'envisagent au sens premier, qui se contemplent et qui évidemment contemplent aussi ce qui est en train de se vivre à travers elles. Et ce qui est très frappant, au fond, je disais tout à l'heure que Marie est la première disciple, mais ici on a le premier témoignage public, d'une certaine manière, de l'identité de Jésus, puisque l'Annonciation a été vécue dans l'intimité de Marie, ou dans l'intimité du couple, Marie-Joseph. Mais ici, on a la première annonce publique et à la fois la prise de parole, le cri, puisque la traduction œcuménique dit qu'il s'agit d'un cri, et le Magnificat de Marie, qui est aussi une forme de cri, sont les premiers témoignages sur l'identité de Jésus. Et c'est intéressant parce que... On peut penser ce qu'on veut de l'historicité de la scène, etc. Mais il y a quand même eu, forcément, dans l'histoire humaine, un premier témoignage sur Jésus. Et que ce premier témoignage ait pu avoir lieu en amont de son ministère public, au sein même de sa vie cachée, de la vie privée, c'est plus que vraisemblable, d'une certaine manière. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas, dans l'accès à la foi, il n'y a pas seulement une logique temporelle ou chronologique. Les premiers témoignages n'ont pas attendu Pâques pour parler de Jésus, ou on n'a pas attendu la rumeur publique qui parlait de cet homme, de son ministère sur les routes de Galilée ou de Judée. Donc il y a forcément eu, au sein même de sa famille, de ses proches, de ses familiers, une prise de parole et une prise de position sur lui. Et c'est ça la grandeur théologique de l'évangile de Luc, c'est de pousser cette logique spirituelle jusqu'au bout et de se dire qu'au fond ce témoignage remonte à l'âge de 7 ans parce que ce serait l'âge de raison, ou à l'âge de 12 ans parce qu'il fait sa bar mitzvah, ou parce qu'il faudrait une date un peu officielle, un peu objective. Non, forcément les premiers témoignages ils sont là où précisément le mystère de l'invisible et la croisée entre le monde de Dieu et le monde de l'homme se fait. C'est ce qu'on va fêter à Noël, précisément. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un premier témoignage à partir de rien, à partir d'une vie qui est pressentie, dont on ne sait rien, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'échographie, hein. Il n'y a pas tout l'attirail, enfin, toute la technicité dont on entoure aujourd'hui, et c'est tant mieux, la naissance d'un être humain. Donc évidemment, on est dans une pensée probablement un peu mystérieuse, un peu peut-être aussi superstitieuse. On est à la fois dans le monde des croyances de ce Proche-Orient ancien, et en même temps, il y a le monde de Dieu qui est là dans toute sa fraîcheur. Personne n'est témoin de cette scène à part ces deux femmes, et c'est la première parole publique sur Jésus, le premier évangile, le premier kérigme d'une certaine manière. Et ce qui est frappant dans le Magnificat, on va le voir, il n'est même pas question de Jésus, on ne parle que des hauts faits de Dieu et on ne parle que de l'accomplissement des promesses. Dieu est fidèle, l'homme est infidèle souvent, mais Dieu, lui, est fidèle. Il tient ses promesses en faveur de sa descendance, de sa race, etc.
Mais c'est vrai qu'il y a plus que là deux cousines qui bavardent. Et c'est vrai que moi, en t'écoutant, je me suis dit, voilà, ces deux femmes se rencontrent et tout d'un coup, l'Esprit Saint jaillit. Et voilà. Et donc ça, c'est souvent le cas entre nous. C'est-à-dire que, voilà, il y a, dans une rencontre, ben, des fois, il y a plus que les deux personnes et il y a quelque chose qui jaillit. Quand Jésus dit, voilà, là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu. C'est pas simplement une belle formule, c'est aussi l'idée que voilà, quand on discute, quand on se rencontre, il peut y avoir quelque chose qui tressaille, vous voyez, c'est plus seulement de la connaissance, de l'intelligence, du raisonnement, aussi de la connaissance et du raisonnement, parce que ce texte est extraordinairement cultivé et intelligent, si vous voulez. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui peut tressaillir. Dans notre sein, c'est-à-dire dans notre capacité à aimer, à se laisser émouvoir. Alors il y a quelques mots aussi qui peuvent être trompeurs, qui sont un peu trop réducteurs, je pense, en français. Tu es béni, si vous voulez. Béni, en français, ça veut dire bénédicere, dire du bien, mais c'est beaucoup plus que ça, si vous voulez, dans le texte de biblique. C'est plus que dire du bien de quelqu'un. Bon, c'est déjà sympa, je dirais, de dire du bien de quelqu'un, et ça fait toujours plaisir de se l'entendre dire. Mais la bénédiction, c'est le même mot, si vous voulez, que le. C'est en hébreu, enfin on le connaît en arabe, hein, la baraka, c'est le même mot en hébreu, c'est beruka, et c'est le même mot que le genou, en fait. On dit un cheval, un chameau barak, c'est-à-dire qu'il se met à genoux, parce que c'est le même mot, si vous voulez, que se mettre à genoux. Donc en fait, la bénédiction, c'est une mise en articulation, vous voyez, entre Dieu et l'homme. C'est pour ça qu'on se bénit mutuellement. Que l'homme bénit Dieu et que Dieu bénit l'homme, c'est une entrée dans une souple articulation, si vous voulez, qui permet d'avancer, qui permet de marcher. Et donc c'est bien ça, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est pas simplement un pauvre petit bout de bonne femme qui est tout d'un coup subit une reprogrammation intégrale et subit cette sorte de reprogrammation sur laquelle elle ne peut rien, si ce n'est un simple oui, et puis le reste, elle se laisse envahir par cette immensité de la transcendance de Dieu. Non, c'est beaucoup plus beau que ça. Ça, ce serait un viol, mais ce serait un mauvais jeu de mots par rapport à l'événement qui lui arrive, si vous voulez, ou qui lui est peut-être même arrivé pour concevoir cet enfant. Parce que c'est ce que dit le Talmud, hein, c'est que Marie s'est fait violer par un soldat romain dont il donne le nom Pandera ou Pantera, et puis qu'elle a conçu un enfant comme ça. Et que donc que Jésus aurait été l'enfant adopté, si vous voulez, par Joseph et Marie, dans un sens. Voilà. Bon, mais ça, c'est une autre question. Ça aurait été un viol par Dieu si Marie avait complètement été envahie dans ce simple oui par toute la parole de Dieu et l'immensité du plan de Dieu et de ce qu'est Dieu. Non, c'est une mise en articulation où elle peut rester encore une personne, vous voyez ce que je veux dire, capable de comprendre, de réfléchir. Et on le voit bien, parce que si vous voulez, là, elle est capable de cette louange extraordinaire, mais après, on voit qu'elle est dans un besoin de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce fils tout à fait extraordinaire. Donc on voit au temple de Jérusalem, elle a une démarche à faire pour essayer de saisir un peu comment ça va pouvoir se tricoter, cette affaire. Mais donc le premier mot, donc c'est peut-être la bénédiction, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus respectueux et ça transforme quelque chose dans le mode de relation à Dieu, voilà, où chacun est à sa place, mais dans une souple collaboration. Tu es heureuse, hein, bien heureuse. Bien heureuse, c'est pas... Vous voyez, des fois, on voit des images, Marie ouvre des grands yeux comme ça, elle a l'air un peu décérébrée, un peu niaise, si vous voulez. Ça me fait pitié parce que c'est pas ça. Là encore, quand on va chercher l'hébreu derrière, et ça a été c'est bien connu par la traduction de Chouraki des Béatitudes, il y a marqué en marche les assoiffés du souffle, je sais plus ce qu'il met pour les Béatitudes. C'est le même mot en hébreu pour être heureux et être en marche. Donc c'est pas une béatitude béate, c'est elle est dynamisée par ça. Et effectivement, bon, on a coupé le début du texte, mais après son oui, elle est, immédiatement, elle est mise en mouvement vers Élisabeth et elle est mise en mouvement dans sa louange, mise en mouvement dans sa foi, dans sa façon d'être. Vous voyez, c'est donc ce heureux, c'est pas simplement une béatitude, une extase comme avec un shoot. C'est plutôt voilà, son être est dynamisé et alors oui, il y a un bonheur à cet être qui tout d'un coup se met en vie, vous comprenez. Et puis peut-être, alors les entrailles, je vais déjà parler, mais le dernier, c'est bienheureuse celle qui a cru, si vous voulez. Le croire, c'est pas de la croyance. La croyance, ça fait trop intellectuel, si vous voulez. Il faut croire des trucs auxquels on croit à moitié et dans lesquels on doute. On a le droit de douter pour les croyances, c'est pas le problème. Mais là, c'est la foi, c'est-à-dire que c'est encore de la relation. C'est de la relation, c'est une confiance, c'est une... Parce que bien sûr qu'elle doute, c'est pas le problème. On voit dans ce dialogue avec l'ange, elle doute, elle se dit mais comment ça peut se faire, c'est pas possible. Mais elle est dans le dialogue, elle est dans la recherche. Et puis même après, que je vous disais au temple de Jérusalem, il y a encore du doute, bien sûr. Donc c'est pas une croyance, vous voyez, à une vérité théologique. C'est une relation d'ouverture, de confiance. Et c'est ça auquel est promis le bonheur, c'est ça dans lequel est promis un cheminement, une dynamique d'existence, une croissance, une articulation avec Dieu, c'est dans cet acte de foi, de recherche de Dieu, ne serait-ce que ça, voilà, cette ouverture.
Oui, oui, oui.
Apparemment, c'est effectivement très très féminin cet épisode, et même on parle du fruit du sein, du fruit de vos entrailles, il n'est pas encore masculin, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas moyen de déterminer que Jésus sera un homme.
Il n'y a pas d'échographie, oui. Mais c'est qu'à peu importe, hein, c'est pas le problème. Mais c'est pas le problème, là. Comme disait Jérôme, on parle là. Oui, et puis même là, on parle pas c'est en amont de Jésus, si vous voulez. C'est tout d'un coup, elle discerne un salut qui est dans son existence à elle, et ça va se poursuivre, bien entendu, par l'Évangile. Mais déjà, c'est l'Évangile qui tressaille en elle, voilà.
Dans votre démonstration, là, tout de suite, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de simplicité dans tout ce qui est dit, les réactions de la Vierge
Il y a une simplicité du cœur. Le cœur de l'homme est compliqué, dit...
Quelque chose de jeune, d'ouvert, enfin de simple, pas dans le sens, bien entendu.
Simpliste, pas, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr.
Moi, je crois... Oui. Moi, je crois, parce que c'est une...
Justement, la différence avec ce que cela n'est pas. C'est ce que vous avez cherché à...
C'est-à-dire qu'il y a une simplicité, parce que c'est une expérience, vous voyez. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience de foi, d'ouverture, de recherche, de réceptivité à la grâce de Dieu, à quelque chose de neuf qui vient de Dieu. Mais c'est vrai qu'ensuite, ça se réfléchit et s'élabore, vous voyez, dans ce Magnificat. C'est ça qui est assez intéressant. Mais ça, c'est un peu comme la poule et l'œuf, hein, et ça a été très discuté par les théologiens. Est-ce qu'il faut d'abord comprendre pour croire, ou c'est quand on croit, au sens de la foi, qu'on peut enfin comprendre? Donc là, il y a les deux, parce que la foi est première, et puis ensuite... Eh bien, elle va essayer de réfléchir sur ce qu'elle lui arrive. Et je crois que c'est assez sage, parce que des expériences spirituelles, des transes, des idées qui nous traversent la tête, des choses comme ça, peut y en avoir de toutes sortes. Donc elle a raison. Après une expérience spirituelle, j'allais dire, avec l'ange, d'aller voir sa cousine, dans cette rencontre, d'essayer d'élaborer quelque chose. Et puis ensuite, dans une méditation, une réflexion... sur les Écritures et pour reconnaître en quoi est-ce que ça va dans le sens des promesses de ce qui est de l'ordre de... Voilà, pour essayer de Et c'est là qu'on sort de la simplicité, si vous voulez. Et c'est là que c'est intéressant, vous voyez, on a cette...
Parce qu'il est jeune, parce qu'une personne plus âgée aurait été plus...
Peut-être moins souple dans cette ouverture, oui, oui.
Sûrement, oui, 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 oui. Moi, je pense au film de Godard, vous savez, il y a 30 ans, 83, Je vous salue Marie, qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, alors que c'était un très beau film, moi je l'avais vu beaucoup plus tard, qui transposait l'histoire de Marie dans des conditions de vie contemporaines, très simples, avec un jeune ouvrier, une jeune femme. Et de fait, lorsqu'on a le cœur un peu compliqué, ce qui est le cas de tout homme moderne, de tout citadin, etc., la simplicité devient un combat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on cherche à obtenir à nouveau, c'est comme l'innocence, parce qu'on l'a perdue. Mais il faut croire que pour d'autres personnes, cette simplicité un peu native, cette naïveté, puisque le mot naïf veut dire ça, ça veut dire natif, hein, celui qui est né, il faut croire que cette simplicité du cœur, qui n'est pas dans les méandres, dans la complication, dans l'enchevêtrement des schémas de pensée, des références, qui n'est pas encombrée par tout ça. Il faut croire que cette simplicité est possible et qu'elle est heureuse, que certaines personnes ont le cœur unifié. Alors nous sommes tous appelés à simplifier notre vie intérieure et à l'unifier, mais Marie, c'est peut-être pour ça qu'elle est choisie aussi. La raison de son élection, c'est peut-être aussi d'être ce cœur simple qui n'est pas simpliste, qui n'est pas bête, qui a la grande intelligence, la grande... Il y a des personnages de littérature comme ça, qui ont ce regard, l'idiot de Dostoïevski, par exemple. Et tout à l'heure, je disais, son oui, c'est un oui à la quotidienneté de sa vie. Il y a des personnages de Tchekhov qui sont comme ça, qui découvrent. Je crois que la littérature n'est qu'un immense commentaire de la Bible. Alors, il ne faut pas aussi négliger le fait que le monde des rêves et le monde des prémonitions étaient très présents. Et dans l'Antiquité et au Proche-Orient, bien sûr. Et que souvent, alors je me souviens d'un témoignage, mais je ne sais plus de qui, peut-être d'André Chouraki, justement, qui, par ses origines, avait encore gardé la mémoire familiale de ces femmes qui, au XIXe siècle, fondaient leur choix de vie sur ce qui nous semble irrationnel, sur des rêves ou sur des suggestions, etc. Et tout s'avérait vrai, parce qu'au fond, alors ça c'est passionnant, parce qu'au fond il y avait aussi probablement des schémas sociaux qui se répétaient, qui étaient tellement intégrés qu'elles en rêvaient, et puis ensuite les choses s'accomplissaient, et que ça n'a rien d'irrationnel, et il est possible qu'on soit aussi dans cet univers mental-là, un monde qui ignore les abîmes de l'inconscient peut-être, et qui... Voilà, qui est de plein pied avec son imaginaire et sa vie quotidienne. Enfin, là, ce sont des pistes pour essayer de comprendre le type d'expérience qu'ont vécu ces femmes. Encore une fois, sans vouloir faire, de l'historicisme primaire, évidemment. Alors, on va peut-être regarder le texte du Magnificat, ce qui est intéressant, enfin, c'est même fascinant, pour reprendre ce que disait Marc. C'est pas du tout une femme qui va pérorer en disant « voilà mes opinions sur Dieu ». On n'est pas justement dans les croyances. Le monde de la croyance, c'est le monde de l'opinion, de ce que les Grecs appellent la doxa, c'est-à-dire finalement le degré zéro sur l'échelle de la vérité, enfin, et dans l'accès à la vérité. Toute la philosophie le dit, et c'est intéressant qu'au fond, ces femmes en aient l'expérience sans avoir été à l'Académie de Platon. Mais voilà, c'est pas du tout... de la doxa, on n'est pas du tout dans l'opinion. C'est pas un tissage d'opinion, c'est un chant. Et c'est un chant qui est aussi un récit, et c'est un cri du cœur, mais la foi n'est pas un cri, comme disait un grand théologien des années 50, donc c'est plus qu'un cri, c'est un chant. C'est-à-dire que c'est articulé, là aussi il y a des genoux, et des coudes, et des, oui. et des relations et des liens. Et c'est en ça que c'est magnifique. Alors nous, par habitude prosodique, on a l'habitude souvent de lire les versets deux par deux. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais souvent dans la traduction liturgique, on a deux versets par deux versets. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, etc. » Mais il ne faut pas du tout lire comme ça. Et il faut lire ça comme une coulée. Parce qu'en grec, ce n'est pas du tout... Ça vous intéresse d'entendre juste le début en grec pour voir un peu l'effet? Elle commence en disant « mégalunei ». Méga, c'est le méga que vous trouvez dans mégalomanie, c'est-à-dire la folie des grandeurs. Parce que méga, ça veut dire faire grand. Mégalunei est psychémou, c'est-à-dire psyché, ça a donné psychologie. Donc mon âme fait grand le Seigneur, ton kurion, qu'on trouve dans le Kyrie. Mégalunei est psychémou, ton kurion. C'est-à-dire, mon âme fait grand le Seigneur. Magnifie, magnifier, c'est ça, magnus, hein, c'est faire grand. Ça veut dire que c'est pas tellement la grandeur de Dieu qui est première et qui s'impose et qui viole la liberté humaine, c'est qu'aussi Marie est collaboratrice et c'est elle aussi qui choisit de faire grand son Dieu. Vous voyez ? C'est extraordinaire. J'ai revu le dialogue des Carmélites de Bernanos et Poulain il y a quelques jours. À un moment, une des religieuses dit « ça n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle ». C'est important. Ce n'est pas du volontarisme, c'est une réponse à la grâce. Bien sûr, la grâce est première, mais on y répond en agissant. Je le dis souvent pour Noël, je dis on attend souvent des merveilles de Noël, mais c'est nous aussi qui avons la responsabilité de cette fête. C'est nous qui avons à exercer une vigilance et une veille pour que cette fête soit belle, qu'elle ne soit pas dénaturée. On se plaint toujours du commerce et de la société de consommation, mais c'est aussi sur nous que ça repose. Et je sais que Etil Soum, cette femme qui a été déportée pendant la guerre, je ne sais pas si vous connaissez Etil Soum, qui a écrit son témoignage, elle dit « Seigneur, aujourd'hui je vais encore t'aider à vivre ». C'est pas une hérésie. C'est pas une hérésie. C'est parce que ça dépend aussi de nous. Mais ça ne dépend pas que de nous, bien sûr. Mais il nous fait cette grâce de faire en sorte que nous puissions non seulement répondre à sa grâce et collaborer au salut, mais à faire que tout cela soit vrai. Et c'est ça qui est prodigieux. Mégalunei et psychémou. Mon âme fait grande Dieu. Et c'est elle qui le dit, elle qui est toute petite, qui n'est rien du tout. Elle qui est au bas de l'échelle sociale. On dit toujours elle fait partie des humbles. Oui, mais elle fait partie des humiliés. C'est même pire que ça. Il faut donner le participe passé. Des humiliés de la société de l'époque, bien sûr, mais, et des opprimés.
Là, il y a un petit détail, c'est que l'âme, on dit âme pour la psyché, mais en fait, il faut aller chercher l'hébreu derrière,
c'est
à mon avis.
Nefesh, oui.
C'est le nefesh, et donc c'est plus que l'âme, c'est l'être entier. Et effectivement, Marie... Elle exalte le Seigneur, pas simplement avec son âme. Oui, c'est pas,
heureusement.
Sinon, on n'aurait pas eu de Jésus de Nazareth, si vous voulez. Donc, c'est son être entier. Voilà. Par contre, c'est l'esprit qui représente plus peut-être la partie spirituelle. Oui, ça, d'accord. Et donc, l'esprit s'est rempli d'allégresse. Il y a une expérience spirituelle au départ qui a été remplie. Donc, c'est au passif. Mais du coup, c'est son être qui va exalter le Seigneur dans les conséquences de cette expérience spirituelle.
Alors, effectivement, mon esprit, l'esprit, c'est le pneuma en grec. Hein. C'est la partie qui, dans le nous, c'est-à-dire dans la vie... intellective, peut être au contact de Dieu. Ça, c'est l'anthropologie chrétienne a essayé plusieurs modèles et chez Augustin, chez les mystiques français, encore au XVIIe siècle, on cherche la pointe de l'âme. La pointe de l'âme, c'est-à-dire l'endroit où se fait le lien entre Dieu et l'homme. Parce qu'on dit toujours « Dieu est en nous », etc. Oui, mais comment ça marche ? Ils se sont posé des questions, c'est intéressant, souvent on se dit, oui, de toute façon, on ne peut pas répondre, mais c'est quand même intéressant. Il y a des générations qui se sont affrontées à ces questions-là. Le spiritus, c'est un peu, c'est le pneuma, c'est un peu de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte aussi, bien sûr, et c'est pour ça qu'il a eu une telle fortune liturgique, c'est que Marie, tout en parlant en son nom propre et en parlant d'une expérience totalement singulière et ô combien singulière, unique au monde, unique, c'est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire il n'y a pas d'équivalent, eh bien, en même temps, elle donne la parole à d'autres. Elle est le porte-parole, et non seulement porte-parole, mais elle donne la parole, elle nous donne des mots pour prier. Elle n'est pas dans l'orgueil spirituel de quelqu'un qui serait favorisé d'une élection et qui, du coup, se prévaudrait de cette élection pour dire que vraiment, toutes les autres femmes à côté... Non, pas du tout. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est que elle part de son expérience singulière, elle ouvre cette expérience singulière à une dimension plus particulière, c'est-à-dire à son peuple, à Israël, et elle va même jusqu'à l'universel. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. Donc il y a un passage comme ça du singulier au particulier, du particulier au général et à l'universel, sans que ce soit abstrait. Il faut le faire, c'est quand même extraordinaire. On est dans ce que Hegel appelait l'universel concret. C'est-à-dire que on rejoint l'universel, mais non pas avec une idéologie, mais avec une personne qui dit « voilà comment ça se passe en moi, comment ça s'est passé, j'y crois, c'est vrai, Dieu est fidèle à son peuple, il va accomplir, malgré tous les événements qui souillent la face du monde, il accomplit ses merveilles, et je suis là pour le dire, et d'ailleurs, en moi, la chose se vit. » Parce que c'est ça qu'elle vit. Et donc, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Ce qui est même intéressant, c'est de découvrir qu'au fond, dans le texte, il y a déjà des intuitions théologiques. Vous savez, tout chrétien, dans son identité, à un moment, se heurte à une forme de dialectique. C'est-à-dire qu'il y a une dimension inclusive. On veut inclure toute l'humanité, on dit que le salut est universel. En même temps, on ne veut pas non plus capter tout le monde et avoir l'air prosélyte, etc. Et donc, il y a l'effet inverse, qui est l'effet exclusif, c'est-à-dire le petit reste. Voilà. Et il y a toujours cette tension que nous vivons sans cesse dans nos églises. Tous les débats peuvent être ramenés à ça. Est-ce qu'on doit ouvrir, avec le risque que le parfum s'évapore et que le sel s'affadisse, ou bien est-ce qu'il faut absolument se fermer, se protéger, se cadenasser, se replier de façon identitaire sur soi, parce que comme ça on va sauver le trésor, mais du coup il y a tous ceux qui décrochent autour, et voilà. Et donc il y a toujours cette tension, et en fait on trouve ça ici, parce qu'elle dit sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Donc ça, c'est la dimension qui n'est pas totalement inclusive. Elle n'essaye pas de récupérer tout le monde. Elle dit, voilà, c'est pour ceux qui acceptent d'entrer dans cette crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. La crainte, ce n'est pas une crainte servile, bien sûr, c'est le respect. Nous, on dirait, vous savez, on a ce mot à la bouche sans cesse aujourd'hui, bon, c'est devenu un peu bien pensant, le respect, il faut du respect, il n'y a plus de respect à l'école, dans le métro, etc. Bon, ben, le respect, c'est ça, c'est l'espèce de révérence spontanée, qui n'est pas obséquieuse, évidemment, de vénération, de piété. Les latins parlaient de pietas, pour quelque chose, pour un ordre qui nous dépasse et qui est vrai, qui est sérieux, qui n'est pas le fruit de fantasmes ou d'illusions. Donc, ce bonheur promis, ce salut, c'est pour ceux qui le craignent. On ne l'impose pas aux autres. Mais en même temps, toutes les générations me proclameront. Elle tient les deux bouts. Hein. Et nous, on a souvent du mal à le faire. Entre nos problématiques communautaristes, identitaires, ou au contraire trop universalistes, trop presque humanitaires quelquefois, et qui font qu'on dit « bah oui, finalement tout le monde est chrétien, puisque être chrétien c'est être homme, et puis voilà ». Et donc elle arrive dans son champ sans faire un discours théorique, en nous disant « grand 1, grand 2 », etc., elle intuitivement, c'est pour ça que c'est très, non seulement c'est génial, c'est très beau, c'est très inspiré, et c'est très travaillé, probablement très élaboré. Elle arrive à tenir tout ce qui nous, aujourd'hui, nous occupe encore. Et souvent nous déchire, d'ailleurs, ce qui fait l'inconfort du disciple.
Vous parlez de respect à la place de la crainte de Dieu.
Alors, oui, les phobou ménoï, c'est ceux qui, effectivement, ont la phobie de Dieu. Mais enfin, littéralement, c'est ça. Mais le mot phobie est devenu pathologique. Alors qu'en grec, c'est pas ça. Phobia ou phobos, il y a quelque chose de sacré, c'est-à-dire c'est l'effroi sacré qui donne le frisson. Oresco, hein. C'est l'horreur, mais pas l'horreur au sens cauchemardesque. C'est ce qui nous fait changer de régime vital. C'est ce que voilà. Tout d'un coup, on dit ah voilà, j'ai vu un opéra et j'ai eu un frisson au deuxième acte. On ne peut pas l'expliquer, c'est la grâce. Et on a beau dire, oh, mais oui, bien sûr, c'est de la sensiblerie. Ben, non, il faut respecter ça. Parce que dans la sensibilité, il peut y avoir quelque chose. On ne peut pas compter sur la sensibilité pour valider tout le dogme chrétien. Mais voilà, il y a aussi ce frisson intérieur que ressent Elisabeth, d'ailleurs. Hein. Elle dit, voilà, ça a frissonné en moi. Ça a bougé, quelque chose.
Sauf voilà. Que là, c'est le tressaillement d'allégresse pour Elisabeth.
Oui, mais peut-être que l'allégresse et la peur devant Dieu. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on voit après dans Paul et dans Jean, par exemple, dans les lettres, il y a un peu une disqualification de cette crainte de Dieu. Et il dit, mais en fait, quand on est dans l'amour, il n'y a plus de crainte. Et l'amour parfait chasse la crainte, bannit la crainte, dit. Ça doit être 1 Jean 4, ou je ne sais pas quoi. Et puis dans Paul, on le retrouve aussi, il y a dans Romains 8. Hein, donc il y a c'est vrai que là, il y a l'idée bon, peut-être d'une transformation, justement. On entre dans une bonne nouvelle, où la bonté n'est pas seulement de génération en génération sur ceux qui le craignent, mais dans le « n'ayez pas peur hein, », qu'on va... Enfin, on n'aura peut-être pas temps de voir, mais avec les anges qui viennent voir les bergers, ils sont dans cette crainte, dans cette trouille d'un Dieu qui est terrible. Bon, nous, on est un peu moyens, donc on risque de se faire griller par Dieu. Cette peur de Dieu, elle est très présente, même encore parmi les chrétiens, ce qui est tout à fait étrange, à mon avis. Quand on lit quand on découvre Jésus-Christ, qui n'était pas du genre à ni torturer, ni fusiller, ni exclure, bien au contraire. Donc... On entre dans les lettres de Paul et dans les lettres de Jean dans l'idée qu'il n'y a plus de crainte de Dieu, en fait. Et qu'on est dans l'amour, dans la reconnaissance, dans la louange, et c'est autre chose. Mais là, peut-être que le glissement, c'est justement qu'elle, faisant l'expérience que bien que humiliée dans un sens, bien que pas grand-chose... Elle est au bénéfice de cette grâce de Dieu, donc vraiment sans mérite de sa part, c'est ce qu'elle semble dire. Donc, elle peut ressentir dans cette grâce, peut-être justement, arriver à Abraham, à la fin, l'accomplissement de la promesse d'Abraham, où la bénédiction est donnée même à toutes les nations, voilà, à toutes les nations, et puis est donnée même a priori, voilà. Il n'y a pas dans la promesse faite à Abraham, il n'y a pas marqué, dit Abraham, Dieu dit pas Abraham, bon, si t'es bien sage, tu seras béni, mais attention, si tu quittes le chemin, tu vas être maudit et tes générations suivantes vont être tuées et dispersées et tout va partir dans la catastrophe. Non, la promesse faite à Abraham, que rappelle ici Marie, c'est une promesse de pure grâce, sans condition, sans chantage, quoi qu'il se passe, tu seras béni. Et la bénédiction trouvera de toute façon le chemin à travers ta vie, malgré tes erreurs, et Abraham ne va pas manquer d'enfer et des grosses. Donc, moi je sens cette circulation là, si vous voulez, et cette expérience de Marie lui permet de passer... sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent, a une expérience de cette bonté, de cet amour, de cette miséricorde de Dieu qu'on retrouve bon, au verset 54 finalement. Hein, en souvenir de sa bonté, se souvenant de sa bonté, de sa recette, de sa grâce. C'est ça la cause, finalement, de l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas le fait que Israël se met à vraiment bien respecter, bien craindre Dieu, tout bien comme il faut, tremblant comme une feuille devant un Dieu terrible, et se met enfin à filer doux, si vous voulez. Je crois que là, il y a une expérience, voilà, de Marie, et qui est déjà une expérience de l'Évangile, de la bonne nouvelle, finalement, à travers ça. Alors peut-être un petit mot, justement, sur le verset 49, « Parce que le Puissant a fait pour moi des grandes choses ». Il y a une nouvelle édition de la traduction œcuménique de la Bible qui est assez récente, où effectivement, ils ont enlevé « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses », ce qui était en fait littéralement un mensonge des traductions, si vous voulez. Il n'y a pas marqué « Tout-Puissant », ça existe, « Pantocrator », ben, il n'y a pas marqué « Pantocrator ».
C'est Odunatos.
C'est Odunatos, c'est le puissant.
Le dynamique, en fait, ouais, celui qui a la dynamis.
Voilà, cette dynamique de création de Dieu, de pardon, de réconciliation, d'élévation. Et donc ça, c'était un mensonge absolument scandaleux qu'a fait Enoch, qu'a fait, à mon avis, plus d'athées que tous les athées du monde, en fait. Parce que si on dit Dieu est tout-puissant, ben en fait... À ce moment-là, quand une petite fille de 11 ans, j'en ai enterré une, je me souviens, c'était un des premiers enterrements que j'ai fait en plus, merci de l'expérience, petite fille de 11 ans qui meurt de leucémie après 3 ans de souffrance atroce, et les parents étaient en plus vraiment des gens sympas, extrêmement croyants, des réunions de prière, des cercles de prière avec une ferveur extraordinaire pour eux. En plus, la gamine était sympa, quoi, c'était pas une... Donc... Le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. À ce moment-là, dans le journal, on met le Tout-Puissant a rappelé Ludivine 12 ans de leucémie atroce parce qu'elle voulait un ange de plus dans le ciel. Enfin, c'est des horreurs absolument épouvantables à faire dresser les cheveux sur la tête et qui rendent athée tout le monde. C'est impensable. Et donc, le Puissant, bah oui, il est puissant. Il a une dynamique d'évolution dans le monde et puis il reste encore du chaos. Donc, il reste encore des leucémies, des cancers, des catastrophes. Et il nous appelle à participer à cet élan d'évolution, de genèse, de création, d'évolution. Et quand on fait de la recherche contre le cancer, on ne lutte pas contre un Dieu méchant qui nous envoie des épreuves, des punitions, des catastrophes. On va avec Dieu, on travaille avec Dieu pour participer à cette dynamique de création. Donc oui, très reconnaissant que les traductions modernes, la nouvelle traduction œcuménique... La nouvelle Bible second et puis d'autres, on fait cet effort d'enlever le mot tout-puissant quand il n'y était pas. Dans la Bible, le mot tout-puissant, il n'y est que à la fin, dans l'Apocalypse. Alors effectivement, à la fin des temps, quand toutes choses, d'où dit Paul, quand toutes choses seront réconciliées dans ses mains, bon, c'est à l'horizon de l'histoire, c'est à la asymptote infinie. À ce moment-là, ben, il n'y aura plus de chaos, il n'y aura plus de rébellion contre Dieu. À ce moment-là, Dieu sera tout-puissant, parce que son amour aura triomphé de tout. Mais dans le présent, non, Dieu n'est pas tout-puissant. Donc on peut s'ouvrir par la prière à ce qu'il peut faire, et puis ce qu'il ne peut pas faire, eh bien, c'est qu'il ne pouvait pas le faire. Hein. Donc voilà, il faut à ce moment-là faire avec, comme lui fait avec, ou alors il faut se battre comme lui se bat.
Oui, tout à fait. Sur la question, effectivement, de la peur, oui, juste une petite précision, parce que je pense qu'il faut distinguer la peur superstitieuse, au fond, qui est une peur toujours un peu minable. Je pensais à ce film de Hitchcock, La loi du silence, où on voit un homme qui se confesse, qui a besoin d'absolution parce qu'il a peur de l'enfer, et puis en même temps... Il prend en otage le confesseur qui était joué par un grand acteur américain, qui m'échappe. Monty Clift, voilà, tout à fait. Et donc ça, cette peur superstitieuse, on peut l'opposer à une peur qui est la peur finalement de l'enfant qui a peur de décevoir ses parents. Ou la peur qu'on a de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, vis-à-vis de quelqu'un. Je crois que c'est une peur, c'est une forme de trac. Et je crois que quand on dit sur ceux qui le craignent, ben oui, c'est ceux qui ont le trac devant Dieu, qui ont peur de pas être à la hauteur, qui ont cette petite appréhension qu'un comédien a quand il monte sur scène, de pas être, voilà, d'avoir un trou de mémoire, de pas être aussi digne, voilà. Alors Dieu aime aussi ceux qui sont indignes, mais ceux qui sont dignes et qui ont cette appréhension, ben vous voyez, là, ils sont un peu mis en lumière. Parce que le mot peur, le mot, c'est comme le Dieu terrible aussi de la Bible, la terreur sacrée, tout ça, ce sont des expressions très équivoques. Et donc, le mot peur, on peut le garder, mais à condition, voilà, de le ramener à sa juste proportion. Hein. J'ai peur qu'il fasse froid demain. Bon, c'est pas non plus une peur qui me stérilise, qui m'envahit, qui détruit mes puissances de vie. Voilà, il y a plusieurs formes de peur. Oui, allez-y, Nicole, je vous en prie.
Mais à propos de la crainte de Dieu, ne pensez-vous pas qu'il est resté, malgré tout, une crainte de Dieu plus grande que la crainte de Jésus-Christ quand on prie soit le Père, soit le Fils? Enfin, ce sont des choses qui arrivent tout de même. Est-ce qu'il n'y a pas justement une proximité avec Dieu par l'intermédiaire du Fils qui est plus facile? Est-ce que c'est clair?
Oui, et je pense que c'est une logique qui a présidé aussi au culte marial, parce que Marie était encore moins intimidante que le Fils, vous voyez? Une espèce de, c'est très beau d'ailleurs, une espèce de cascade comme ça, parce que la figure de Marie, on sait très bien que beaucoup de femmes musulmanes, par exemple, sont très attachées à la figure de Marie, vont et montent à Notre-Dame de la Garde, à Marseille, j'en ai encore eu le témoignage récent. Oui, tout à fait, elle est celle qui montre Jésus, Jésus est l'icône du Père, etc. On peut voir les choses comme ça, je crois que on ne veut pas, et on a raison, que la religion ne soit qu'une source de consolation, mais enfin c'est quand même aussi une des missions du disciple, c'est de consoler, hein. C'est le livre d'Isaïe, consolez mon peuple, il faut aussi consoler, pas à n'importe quel prix, en disant n'importe quoi et en faisant croire n'importe quoi, mais il y a aussi cette mission d'être proche, effectivement, et de ne pas maintenir des images lointaines, grandiose, intimidante, inconnue, tout à fait, tout à fait, bien sûr, bien sûr.
Mais c'est vrai, je crois que c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que si vraiment on a bien lu l'Évangile, qu'on l'a ruminé, on devrait, moi il me semble que voyant le Christ, on devrait pouvoir prier Dieu sans aucune crainte, et même, je sais pas, quand je vois des... Quand quelqu'un prie Marie, bon, moi je dis ça en protestant, donc je vois ça de l'extérieur, si je puis dire, mais quand on prie, quand on peut avoir envie de prier Marie, on cherche finalement une tendresse, une compréhension, mais le Dieu de l'Évangile, c'est exactement ça, en fait. Quoi ? Le Christ, oui, mais même Dieu, je veux dire. Justement, oui, mais c'est qu'il faut continuer à évangéliser, justement, ce Tout-Puissant.
Et...
Ben, je crois qu'il faut continuer à évangéliser cette histoire d'un Dieu qui... Le problème, c'est que je crois que les premières générations de chrétiens, ils ont... l'évangile s'est répandu dans un monde grec, en fait, parce que c'était l'anglais d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, il y avait... Je pense qu'il y avait encore plus d'échanges qu'aujourd'hui dans notre civilisation. C'est-à-dire que... il y avait des tas de populations diverses, et donc on échangeait en grec. Et donc, et puis il y avait ce formidable outil de la philosophie grecque pour raisonner, pour élaborer, parce que Jésus n'a pas fait, c'était pas un philosophe, enfin je dirais, si, il y a une solide philosophie derrière, mais son discours, son apport n'était pas extrêmement, enfin je veux dire, construit, c'était pas des longs discours, des sommes théologiques terribles, c'était plutôt un changement de regard, un changement dans la façon d'être, dans la confiance à Dieu, dans la relation avec l'autre, avec soi-même, avec la vie, c'était, voilà, c'était de l'ordre de la vie. Et donc les premiers chrétiens, ils sont retrouvés avec ça dans les mains finalement, dans le cœur, dans la tête, et ils ont dû l'élaborer. Et pour ça, les outils de la philosophie grecque, de la rhétorique, de la logique, de l'élaboration, leur ont été fort utiles, mais ils se sont peut-être laissés un peu contaminer par une théologie grecque avec un dieu Zeus très puissant, tout puissant, et on le voit venir s'imprégner jusque dans nos traductions de la Bible, en fait. Et je crois qu'il faut réévangéliser finalement cette conception de Dieu, particulièrement à Noël, en un Dieu tout proche, en fait, un Dieu de tendresse, un Dieu d'accompagnement, un Dieu qui vient, qui jette son regard, qui nous déclare bienheureux, qui nous donne sa grâce, qui nous recueille dans notre petitesse, dans notre bassesse, dans un sens, sans qu'on ait à mourir de trouille. Donc je crois que oui, quand on médite ces écritures, cet évangile, ce qu'a apporté Jésus, on peut prier Dieu sans crainte au nom de Jésus, ou alors en méditant sur Marie, pourquoi pas, mais on peut s'adresser vraiment à ce Dieu de bonté, comme un Dieu de tendresse, de pardon, d'accompagnement, d'acceptation, voilà, je crois, vraiment.
Mais le Dieu du Sinaï était aussi intimidant, hein. Donc c'est pas seulement les Grecs, le Dieu
c'est pas seulement
de la tradition d'Israël. Alors c'est un Dieu par moment, on avait vu quand on a fait fils, père, mère, etc. On avait vu bien sûr la dimension maternelle, prévenante, et puis le Dieu qui se fiance avec son peuple également, mais c'est aussi, il y a des images très... très éclaté de ce Dieu-là, et puis ça peut même être un Dieu un peu tatillon avec la loi, à la manière dont l'interprétaient les pharisiens, par exemple. Donc oui, l'évangile, effectivement, cherche à dire que Dieu, c'est pas une mauvaise nouvelle, que c'est une bonne nouvelle. Donc c'est quand même ça, la base du kérigme, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, et qu'à force de... Bon, j'ai eu dernièrement entre les mains la liste des conditions que l'on met à l'accès au baptême aujourd'hui dans certains diocèses. Effectivement, on se dit, mais pour certaines personnes, ça doit être une mauvaise nouvelle, parce que c'est soumis à tellement de conditions. Voilà, l'Église des purs du IIe siècle, hein, l'Église donatiste a eu cette tentation-là. Bon... je referme la parenthèse.
Oui, mais c'est vrai que l'évangile, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire dernier avertissement avant jugement dernier. C'est quand même ça, l'évangile. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on tisse deux types d'alliances, nous dit-on. C'est ce qu'on remarque. Il y a une alliance inconditionnelle avec Abraham. C'est une alliance vraiment de grâce, de bénédiction, sans condition. C'est le Dieu qui accompagne. C'est le Dieu qui dit, par exemple, à Isaac, Jacob... Je t'accompagnerai. Donc, c'est-à-dire, tu peux y aller franco, tu peux y aller avec ton cœur, librement, tu prends le sentier qui te semble bon, je t'accompagnerai et puis je vais rattraper par derrière. Donc, c'est un Dieu qui se fait serviteur, qui se fait petit, qui accompagne, un Dieu de proximité, de tendresse, de pardon, voilà. Ça, c'est la première alliance, celle avec les patriarches. Et puis, il y a l'alliance conditionnelle avec le Deutéronome, par exemple. Voilà, je place devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, sinon ça va pas rigoler. Parce que derrière, il y a the sentier devant toi, avec des rails, et puis si tu t'écartes un petit peu, il y a un précipice avec des crocodiles qui viennent te manger. Donc non, si vous voulez, ça tisse les deux, si vous voulez. Et c'est là le génie, si vous voulez, de la Bible. C'est pas juste simpliste, vous voyez. Parce que la vie est un peu comme le Deutéronome. Si je prends ma moto, que je fais du 200 sur la rue de Rivoli, si je me plante en arrivant à la Concorde ou même avant, ça sera malgré la volonté de Dieu, si vous voulez. Donc la vie, quand même, apporte un jugement en elle-même. Si je fais n'importe quoi, ma vie sera n'importe quoi. C'est quand même vrai. Dieu va tout faire derrière pour rattraper, récupérer, accompagner, sauver, mais bon, il y a des fois où si je fais vraiment n'importe quoi, c'est la catastrophe. Je me tue, je me blesse, je fais de la souffrance dans ma vie et je fais de la souffrance autour de moi. C'est-à-dire, si je tue quelqu'un en roulant n'importe comment, je vais tuer une vraie personne. Donc la vie a ce côté deutéronomiste, vous voyez, où y a un vrai jugement. Si on fait n'importe quoi, ça donne de la souffrance et de la mort. C'est pas que Dieu le veuille, c'est que la vie est comme ça quand même. Donc je crois que voilà, faut tisser les deux, mais le mal ne vient jamais de Dieu, et donc on peut garder les deux à la fois, se dire voilà, Il y a cet appel à la conversion, à faire quelque chose de notre vie, à saisir la vie. Oui, il y a cet appel à la conversion, et puis il y a aussi cette promesse que Dieu est un Dieu de tendresse, de pardon, d'accompagnement, et que si notre chemin n'est pas tout à fait optimum, eh ben, il va nous accompagner quand même là-dedans, dans ce chemin, et puis essayer de tout faire pour que le chemin qu'il n'aurait pas tout à fait choisi, mais sur lequel il nous accompagne, ben, soit vraiment néanmoins extraordinairement source de vie, de bénédiction.
Alors, juste une petite précision avant qu'on regarde assez rapidement les autres textes, mais c'est vrai que le Magnificat est tellement riche, et on a envie d'écouter la version de Jean-Sébastien Bach, qui est une version très, très développée, ça dure une demi-heure, chaque mot l'occasion de vocalise, etc. C'est sublime. Alors, quand il dit, parce que c'est étonnant, il y a une sorte de récit descriptif de ce que le Seigneur a fait, donc les Mirabilia Dei. Donc il y a 7 motifs de louange d'ailleurs. Vous savez que le chiffre 7 est important. Et il y a un très beau chiasme qui est très célèbre, donc une structure concentrique. Il a jeté les puissants au bas de leur trône, il a élevé les humbles, les affamés, il les comble de biens, les riches, il les renvoie les mains vides. Bon. Évidemment, vous voyez bien que ce texte n'a pas plu à certains despotes. On dit même que le général Pinochet avait réussi à faire, je ne sais pas si c'est vrai, ou en tout cas, je ne sais plus quel dictateur avait réussi à censurer le Magnificat, il faut le faire quand même, en supprimant un ou deux versets, les versets qui ne l'arrangeaient pas. Et bien sûr, il y a toute une théologie de la libération sud-américaine qui s'est réclamé, à bon droit d'ailleurs, hein, du Magnificat. Sauf que ce n'est pas aussi simple, évidemment, parce que le renversement en question, il est plus triangulaire que binaire. C'est-à-dire que le Magnificat, c'est là le génie de Marie, quand même. Le Magnificat n'oppose pas des groupes sociaux, n'oppose pas seulement des classes sociales. Ce n'est pas la lutte des classes. Évidemment, on peut lire de façon marxiste ou marxienne le Magnificat, mais c'est quand même la relation à Dieu qui fait que l'on est dans tel ou tel groupe, qu'on est considéré comme humble ou pauvre ou affamé, ou au contraire riche, puissant, etc. Donc il ne s'agit pas d'attiser un clivage social, mais il ne faut pas non plus faire dire l'inverse, évidemment. Il faut maintenir cette espèce de tension qui est propre au texte, et où tout se joue dans les rapports à Dieu. Donc il faut envisager les choses de manière triangulaire. Parce qu'au fond, quand on regarde en grec, ça m'a frappé, je suis allé voir, parce que quelquefois il y a des gens qui s'agacent de cette espèce d'opposition un peu facile. Bon, eh bien le mot puissant, c'est pas du tout le mot courant pour dire puissant. C'est un mot assez rare, qui vient aussi de dunamai, de dunamis, mais qu'on pourrait traduire par les potentats, les despotes, c'est-à-dire les mauvais puissants, ceux qui ont un mauvais rapport au pouvoir, ceux dont le rapport au pouvoir est marqué par le péché. Et les riches, même chose. C'est très frappant, il ne dit pas ploussioi, j'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça. Il dit au fond, les enrichis. Alors, on dirait les nouveaux riches, je ne sais pas quoi. En tout cas, ceux qui tirent une espèce d'orgueil de leur richesse, mais qui n'en font pas un usage juste. Vous savez, il faudra qu'on fasse toute une année, un jour, sur la propriété. C'est passionnant, la notion de propriété dans la Bible. Parce que nous, on a l'héritage romain, le dominium, etc. Mais la propriété dans la Bible, c'est un usufruit. C'est une propriété au service, la terre est donnée pour, et d'ailleurs elle n'est pas donnée à tous, les Lévites n'ont pas de biens, etc. Alors ici, on retrouve toute la tradition prophétique, les prophètes n'ont eu de cesse de dire que le peuple juif, le peuple hébreu n'avait pas un juste rapport à la propriété, et qu'il y a des gens qui s'enrichissaient et qui devenaient mauvais. Parce que Jésus l'a dit également, il y a cette espèce de logique terrifiante dans l'argent, c'est qu'à un moment, avec le superflu, si on utilise le superflu que pour soi, il y a une espèce d'ordre autonome qui se met en place et qui coupe de la relation avec le Dieu vivant, qui empêche la joie, qui favorise la corruption. Il y a quelque chose de diabolique dans l'argent, dans la Bible. C'est aussi une source de bénédiction, mais c'est aussi, il y a quelque chose dans le superflu, en tout cas. Ce n'est pas l'argent en lui-même, mais dans le superflu, il y a quelque chose de diabolique qui coupe de la relation vraie. Parce que on crée un ordre autonome qui devient un désordre, en fait. C'est très frappant. Et donc, ici, ces enrichis, c'est ça. Tout d'un coup, ils s'y croient. Et donc, ils méprisent. Ils méprisent les humbles, ils méprisent les humiliés. Ils n'ont pas cette condescendance divine, puisque le mot condescendance, dans toute la tradition, est un mot positif. Hein. C'est comme la charité. On en a fait quelque chose de péjoratif. Mais la condescendance divine, c'est ça. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Voilà. Et tous les mots hébreux, d'ailleurs, sont des mots très concrets. Hein. Les humbles, par exemple, c'est ceux qui ont le dos courbé. Hein. Voilà, donc Dieu est celui qui relève, mais qui est aussi celui qui se penche, qui fait preuve de cette condescendance divine. Et le riche et le puissant, lui, n'y arrive plus. Il ne voit plus. Ou plutôt, même s'il est pervers, il va se réjouir, à la limite, enfin, de ce qu'il y ait des plus pauvres et des plus et des humiliés, des opprimés. Voilà, donc, vous voyez, il y a une grande portée spirituelle et humaine dans cette opposition. Et Marie met sa joie dans ce qui sera le triomphe de Dieu, à savoir que les humiliés pourront redresser la tête.
Alors, effectivement, dans cette traduction...
C'est les bergers, d'ailleurs. Oui. Les bergers sont des...
J'ai trouvé des choses qui sont aussi, je veux dire, qui méritent peut-être d'acheter un petit coup d'œil, c'est que il a dispersé... Alors oui, d'abord, il a jeté... il s'est penché... vers son humble porter le regard sur son humble servante. En fait, si on regarde bien, il a regardé plutôt l'humiliation de sa servante. Et donc, c'est-à-dire, voilà, pas pour, c'est pas un mérite de sa part, si vous voulez, mais c'est vrai que ça a quand même été enlevé de la traduction. Il n'y a pas l'humilité. Si, ça pourrait penser, c'est parce qu'elle est humble que Dieu porte son regard. Alors que dans le texte, il y a, en fait, le regard est porté sur son humiliation. Et donc, comme tu disais, c'était le fait qu'elle soit humiliée. C'est donc, c'est comme le regard de Dieu, si vous voulez, puisque là, on est dans ce contexte un petit peu. En Exode, la fin d'Exode, le chapitre 2, où Dieu entend tout d'un coup les souffrances, les gémissements de son peuple. Ils n'ont pas prié, ils n'ont rien fait, mais comme ils souffrent, ben, il y a ce cri de souffrance et Dieu l'entend et se penche pour venir sauver. Donc ça, je crois que c'est quand même un détail qui est important. Quelque chose de sympa que j'ai trouvé, si vous voulez, c'est qu'il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Dispersé, en fait, c'est diaskorpizein, c'est vanner, c'est le mot pour... alors c'est dispersé, bien sûr, parce que vous savez, quand le grain, les épis sont battus, ensuite on sépare... on disperse la balle et la paille et puis on garde le grain. Donc c'est ça, et ça veut dire plutôt l'idée d'une... C'est pas qu'ils soient écartés ou qu'ils soient... non, c'est qu'au contraire, ils sont purifiés. Voilà. On enlève dans les gens avec une pensée orgueilleuse, avec une qui mettent au cœur de leur existence leur propre pensée, eh bien, Dieu va les aider à les purifier. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve, par exemple, dans le psaume premier, où il y a les méchants sont comparés à la balle, à la paille, que le vent dissipe. Donc l'idée d'une purification de la méchanceté en chacun et de l'orgueil en chacun. Un autre petit détail, c'est que pour les riches, voilà, il les a renvoyés les mains vides. En fait, c'est pas renvoyés, c'est il les a envoyés, en fait. Ça change quand même pas mal de choses, parce que, par exemple, Paul, envoyé au loin, si vous voulez, mais quand Paul parle de sa propre conversion, et donc de cette vocation qu'il reçoit de Dieu, il y a une voix qui lui dit « va, je t'enverrai », c'est le même verbe que celui-là, « je t'enverrai au loin vers les nations ». Donc, à la limite, les riches, ils sont ceux qui ont été enrichis, et c'est là que ça devient ambigu, en fait. Mais souvent, quand le texte biblique est ambigu, c'est particulièrement... intéressant. Donc on peut dire ceux qui sont confiants dans leur richesse, comme tu disais, ben, en fait, ils vont se retrouver fort dépourvus quand la bise fut venue, parce que du coup, ils basaient toute leur espérance dans leur compte en banque, mais on se rend bien compte, avec l'âge venant, que ça ne va pas finir par faire de l'usage jusqu'au siècle des siècles. Amen. Donc on se retrouve fort dépourvu, oui, quand on regarde sa vie en perspective. Mais donc ça, c'est pour les méchants riches. Mais pour y a ceux qui ont été enrichis, ils sont envoyés les mains vides. Et on pense à cet envoi des apôtres par Jésus. Ils sont riches de l'évangile qu'ils ont reçu du Christ. Et ils sont envoyés sans sac, sans compte en banque, sans pièces d'or. Ils sont envoyés. Et c'est, ce vide, ça fait penser, c'est un verbe, c'est un mot un peu technique, la kénose qu'on connaît en français. La kénose, c'est ce dépouillement, en fait, du Christ qui était, hein, dans Philippiens 2, où il était quasiment l'égal de Dieu, riche de la divinité, de la transcendance, dans cette communion extraordinaire avec Dieu, et qui se vide lui-même. Pour aller vers les humains, voilà. Et donc peut y avoir, c'est un double sens en fait, un double sens qui à mon avis dit, bah, choisissez votre camp en fait dans un sens. Est-ce que vous êtes ces enrichis de l'évangile qui sont envoyés à vide, comme s'ils, voilà, avec le, ou alors c'est Paul qui dit, voilà, je suis presque rien, je suis un avorton, mais c'est comme ça que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu est vraiment bien manifestée dans ma faiblesse. Donc voilà, envoyé nu finalement dans le monde, comme un François d'Assise, ou comme nu dans le monde, pour que voilà, cette richesse qui vient de Dieu puisse resplendir. Ou si je suis un riche, un rapace qui malheureusement pour lui cramponne, investit son espérance dans quelque chose de, qui devrait n'être qu'un moyen utile finalement, qu'est la possession. Bon, voilà quelques petites.
Est-ce qu'avant de se quitter, on lit voilà, la louange des bergers?
Ah, on peut lire.
Comme ça va anticiper un peu Noël. Et puis Siméon, qu'on appelle toujours le vieillard Siméon, alors qu'il n'est écrit nulle part qu'il était vieux, ou on ne fait aucune allusion en tout cas à son âge. Mais probablement, comme il dit qu'il est prêt à partir, on en a déduit qu'il était d'un certain âge. Voilà. Qui veut bien lire le...
Les bergers.
Oui, Chantal.
Marie a le chat de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les entoura de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur, et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons-nous jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. L'ange de Siméon. Siméon le prit, Jésus, dans ses bras, et il bénit Dieu en ces termes. Maintenant, maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël, ton peuple.
Merci beaucoup. Peut-être juste une anecdote, en fait, c'est que, à propos de ces bergers qui vont en hâte au verset 16, en hâte pour chercher finalement à vivre ce qu'ils ont reçu dans la prière finalement, eh bien c'est que quand j'étais pasteur à Nancy, en fait, le rabbin était un rabbin un peu traditionnaliste et donc la ville des fois rigolait un peu de son attitude, mais il y avait quelque chose qui avait marqué, moi j'ai jamais vu faire, mais qui marquait les Nancéens, c'est que quand il allait faire son, je sais pas comment on dit, sa liturgie, son culte à la synagogue, il y allait en courant, en fait, c'est un geste liturgique en fait dans la ville pour dire que il y allait vraiment dans la joie, finalement, et c'était un acte liturgique. Alors, les gens rigolaient un peu, mais ça n'empêche que ça faisait... Ils se demandaient, mais pourquoi ils courent ? Et il expliquait pourquoi ils couraient pour aller là-bas. Il dit, parce que c'est une joie d'aller lire la Torah et de la partager entre nous. Et moi, ça m'a vraiment... Ça m'a touché, si vous voulez. Ça m'a touché, cette course, voilà, pour... Alors, bon... Je crois qu'effectivement, on peut avoir cette joie. Ce n'est pas un pinsomme que d'aller lire la Bible, d'aller à la messe, au culte. Voilà, il peut y avoir cette joie dans l'espérance de recevoir quelque chose, dans la méditation des Écritures, dans le partage fraternel aussi, la participation à cette louange à Dieu, à cette ouverture, à ce qu'il veut nous apporter d'une façon ou d'une autre... à nous aujourd'hui, et donc moi je trouve formidable le geste de ce rabbin, voilà, mais c'est peut-être traditionnel, voilà, c'est peut-être un geste juif qui remonte au fond des âges, c'est possible que ce soit un passage du Talmud qui lui a inspiré ce geste liturgique. En tout cas, donc on se retrouve, si vous le désirez, pour les fêtes de Noël, diverses et variées
dans
nos lieux de réjouissance.
Et au Noël au Hall, où on célèbre, je serai avec James.
Avec James, Noël au Hall à 23h30, voilà. Dans la Bourse du Commerce.
Et on chantera Minuit Chrétien cette année, alors c'est une raison supplémentaire pour...
Et puis,
pour attirer les foules.
Il y a une cantate, où c'est Jérôme qui va nous donner une méditation pour « Ah, que brille l'étoile du matin ».
Pour le quatrième dimanche de l'Avent, samedi.
Samedi 21, c'est ça, à l'oratoire à 18h. Mais sinon, bon, il y a plein de choses pour Noël. Donc, ça sera une joie, nous, de se retrouver pour ce groupe, donc en janvier, voilà, autour de « Heureux êtes-vous, les béatitudes », voilà, avec le psaume 1er, Matthieu 5. À Saint-Eustache.
Voilà, donc bonne préparation, belle montée vers Noël, beau préparatif, bon temps de l'Avent. Voilà.